En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse.
RTL.
Alors, qu'est-ce qu'il buvra là, hein? Un petit Ricard comme d'habitude, hein?
Ah non, 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 je sors de chez le Toubib, là, hein. Alors, je peux te dire que ça m'a refroidi, hein.
Qu'est-ce qu'il a
de... Ah ben, pour moi, terminé, terminé.
Terminé?
Hein. Oh, terminé, terminé, terminé. Sors moi une petite chose, tiens, s'il te plaît.
La belle du bistrot, la fameuse gros dégueulasse.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ben nous aussi, en face d'RTL, il y a un bistrot qu'on aime beaucoup. C'est chez Savy. On y rencontre à toute heure les collègues journalistes, techniciens, les auditeurs, les employés du quartier. On y vient pour une entrecôte frite ou bien un café minute
on
sur le zinc.
On peut écouter Brassens ou un sketch des inconnus aussi.
Bien sûr, il y a même des gens qui imitent les inconnus à la terrasse du Savy. Alors on s'est demandé avec la rédaction de la curiosité, mais au fait, c'est quoi un bistrot parisien? Comment ces établissements sont nés? Alors pour y répondre, un invité de rêve, Pierre Boissard, docteur en sciences sociales du développement, qui s'est passionné pour la vie de bistrot. Parce que vous aimez boire des coups? Oui, vous êtes plongé dans l'histoire de la vie de bistrot. D'ailleurs, vous publiez un livre aux éditions de Presse Universitaire de France. Qu'est-ce qui vous passionne dans les bistrots?
Oui, beaucoup de choses. C'est l'ambiance. C'est un petit monde en soi. C'est un lieu de convivialité tout à fait important. Je pense que la vie serait pas la même à Paris, en tout cas, s'il n'y avait pas les bistrots. C'est une respiration dans la vie quotidienne entre le bureau, le foyer. On fait une pause. On vient aussi pour déjeuner, on rencontre des copains. En y passant, on est sûr de voir des habitués. Parfois, aussi, on peut oublier des problèmes quand on y va aux heures creuses.
Mais c'est marrant parce que quand on voit des films étrangers, notamment des films américains, c'est souvent un marqueur de l'identité de Paris, le bistrot. Quand on veut montrer Paris, bon, bah, y a les monuments, etc. Et puis, il y a souvent l'ambiance du bistrot. C'est typiquement parisien, le bistrot.
Je dirais que c'est typiquement français.
Ouais.
Effectivement, c'est un endroit qui est à la fois très très populaire. Ce qui est particulièrement français, je crois, c'est qu'il y a une mixité sociale. Il y a toutes les catégories sociales qui se rencontrent sans façon. Et on peut facilement discuter avec son voisin qui est grand patron et l'autre qui est ouvrier de la ville. Donc ça, on ne le rencontre pas ailleurs. C'est-à-dire que quand on rentre dans un bistrot, on oublie pendant quelques temps son statut social.
Pierre Boissard, pour ce livre La vie de bistrot, vous avez suivi un homme, c'est le patron du Martignac, c'est un bistrot parisien situé rue de Grenelle dans le 7e arrondissement. Pourquoi cette porte d'entrée? Pourquoi cet homme?
Tout simplement parce que c'était pratiquement ma cantine. Je travaillais à côté.
C'est donc pratique.
C'est devenu votre sujet d'étude.
Voilà, pour les déjeuners. Non, c'est aussi parce que là, il y a une rencontre. C'est un personnage qui est assez étonnant. Et puis, j'ai sympathisé avec lui. Il a commencé à me raconter sa vie. J'ai trouvé ça passionnant.
Pourquoi il est emblématique des patrons de bistrot parisiens pour vous?
Depuis tout petit, il avait l'idée de créer un bistrot. Donc, c'est une idée qui vient de loin. Et il avait pas seulement l'idée d'ouvrir un établissement, mais il savait exactement ce qu'il voulait y faire.
Le patron de ce bistrot est auvergnat. On parlera tout à l'heure du tropisme auvergnat dans les bistrots parisiens. Vous nous expliquerez d'où ça vient. C'est quoi sa journée type? C'est un boulot fatigant, le boulot de patron de bistrot?
Oui, c'est très fatigant. C'est-à-dire qu'il arrive à 5 heures du matin dans son bistrot. Donc ça veut dire qu'il s'est levé à 4 heures, parce qu'il arrive d'ici les Moulineaux en vélo. Commence à 5 heures pour faire tout ce qu'il appelle la préparation, c'est-à-dire préparer les plats qu'il va servir pour le déjeuner. Il lave d'abord son bistrot, il brique le zinc. Et les premiers clients arrivent vers 6 heures à peu près. L'activité du matinal n'est pas très intense, mais à partir de 11h, c'est le coup de feu. Alors de 11h jusqu'à 14h30, 15h parfois, eh bien, il n'arrête pas. Il sert et il a toutes les tables sont pleines. C'est pas la peine de réserver à l'avance, il prend pas de réservation d'ailleurs. Et il faut attendre.
Et il sert le soir aussi?
Alors justement, il ne sert pas le soir, parce que c'est un quartier particulier. Donc,
il vit plus le jour. Ouais.
Oui, et puis... En fait, il a compris que dans ce quartier, il ne fallait pas déranger la population qui est assez bourgeoise et qui ne veut pas de bruit. Ce n'est pas un endroit festif, en fait.
Est-ce qu'on peut quantifier? Est-ce qu'on sait combien il y a de bistrots à Paris?
Mais non, on ne sait pas. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé.
Vous auriez dû compter?
Eh oui, mais comment? Ce n'est pas une appellation contrôlée.
Bien sûr.
On peut s'appeler bistrot sans être bistrot et on peut être un restaurant et un bistrot en même temps. Donc, on ne sait pas exactement. Vous voyez, bistrot... En gros, on voit ce que c'est, mais comment mais faire la différence entre un bistrot et un café? C'est pas personne. Après, ça, c'est à chacun de dire, oui, ça c'est un bistrot, non, ça c'est pas un bistrot, c'est trop prétentieux. Pour moi, le bistrot, c'est quand même un endroit populaire, vous voyez.
Alors si vous, vous deviez faire une petite liste de critères pour définir un bistrot, vous diriez quoi?
Alors, je vais reprendre les critères que m'a donné Yves, qui sont très intéressants. Il y a,
donc, bon, le patron du Martignac, oui, qui vous a inspiré ce livre, La vie de bistrot, aux éditions Puf.
Lui, il me dit, voilà, un bistrot, c'est un endroit où il y a trois plats du jour. Vraiment fait maison, c'est important. Et puis, où on peut consommer des boissons alcoolisées ou non. Et un endroit en même temps populaire. Voilà, c'est pas beaucoup d'apparat, en fait.
Pas de chichi.
Pas de chichi. Et c'est plutôt un petit... Enfin, c'est petit, quoi. C'est pas immense comme une brasserie ou un grand café.
C'est ce que j'allais vous dire, Pierre Boisard. Autant on peut dire à Paris quelles sont les grandes, à défaut toujours d'être bonnes, mais les grandes brasseries parisiennes. Mais est-ce qu'on peut parler de grands bistrots parisiens? Est-ce qu'il y a des noms vraiment qui vous viennent en tête comme ça?
Ben non, je dirais à partir du moment où c'est grand, c'est plus un bistrot.
Bon, ben voilà, c'est réglé.
On dit petit bistrot.
Ouais.
Depuis quand parle-t-on de bistrot? Ce mot, il apparaît quand?
Alors d'abord, il y a une légende qu'il faut rappeler, parce que tout le monde la croit. Les légendes, on a envie de les croire. Malheureusement, ce n'est pas la vérité. On dit qu'en 1814, donc la grande armée napoléonienne a les Cosaques aux fesses. Les Cosaques s'installent dans Paris pendant quelques temps. Ils n'ont pas le droit de sortir leur caserne, mais comme ils ont très soif, ils sont habitués à la vodka, ils se précipitent dans les débits de boissons et ils demandent, ils sont très pressés. Alors ils disent « bistrot, bistrot ». Bistrot, ça veut dire « vite » en russe. On dit que c'est à partir de là qu'on a inventé le mot bistrot. En fait,
oh, elle est belle cette légende.
Oui, elle est belle. Oui.
Oui, mais pourquoi
donc, vous êtes sûr que vous voulez nous la détricoter cette légende?
Désolé.
Alors c'est quoi la vérité?
Vous pouvez toujours la croire.
Oui.
Donc ça, c'est en 1814. Oui. On ne voit pas le mot bistrot dans les journaux, dans les bouquins, dans la littérature, avant 1884. La première mention du mot bistrot, c'est 1884, et c'est un curé en plus qui en parle. Il était aumônier à la prison de la Roquette et il fait un dictionnaire d'argot, parce que c'est là on apprend, c'est sûr, l'argot. Et il parle de bistrot, mais pas au sens du lieu, mais au sens du patron. Le bistrot est sans thé en plus. Hein. Maintenant, on met un thé, enfin, on est libre.
Mais bistrot, ça voulait dire quoi alors pour ce curé ?
Alors, bistrot, d'après les linguistes, parce qu'ils ne savent pas très bien, hein, eux-mêmes, ils perdent leur latin, ils disent, ça viendrait peut-être du mot boîte de vin, bistrot, qui veut dire domestique, et ensuite, le domestique qui sert le vin.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Pierre Boisard, que finalement, le bistrot parisien, c'était un peu le symbole de la France, mais donc ça veut dire que vous ne faites pas de différence entre le bistrot parisien, le bouchon lyonnais, ou je ne sais pas, à Lille, j'ai vécu 2 ans, l'estaminet lillois, c'est pareil? Où il y a des caractéristiques quand même?
Alors, il y a des caractéristiques, c'est-à-dire que bouchon lyonnais, c'est plutôt la gastronomie qui s'impose.
C'est vrai.
L'estaminet, si je ne me trompe pas, mais je vais peut-être être démenti, je crois qu'on y fait de la bière carrément. Hein. Donc, c'est des différences, mais qui sont des petites différences. On y retrouve quand même cet esprit populaire, bien entre soi, ou de franche rigolade aussi, de détente.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est les fiancés d'Auvergne d'André Verschuren. Ça fait du bien d'entendre ça.
Ça fait du bien. Moi, j'ai surtout entendu Gérald Chaland chanter.
Notre producteur.
Est-ce que ça fait du bien? Oui, parce que c'est toujours un plaisir. Est-ce que c'était juste? On peut en parler.
On vous raconte l'histoire du bistrot avec notre invité Pierre Boisard qui publie La vie de bistrot aux éditions Presse Université de France. Pour ce livre, vous avez suivi un homme, Yves. C'est le patron du Martignac, un bistrot parisien situé dans le 7e arrondissement de Paris. Il est auvergnat. Comme les tout premiers bistrotiers parisiens, c'est ça?
Le bistrot, c'est une invention auvergnate. Je dirais même que c'est un don de l'Auvergne à Paris. Les premiers Auvergnats arrivent à Paris au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle. Ils sont pauvres, hein, ils quittent une terre qui ne les nourrit pas, donc ils vont chercher des petits boulots, ils vont inventer des petits boulots, porteurs d'eau, de l'eau froide, ensuite ils portent de l'eau chaude pour les bains des bourgeoises, et puis ils ramassent de la ferraille, des chiffons par terre, donc tout ce qui traîne, ils en font un peu d'argent. Et ils investissent le quartier de la Bastille, le passage Terré en particulier. Et pour se nourrir entre eux, pour se rappeler le pays, ils ouvrent des petits endroits qui vendent à la fois du charbon, du vin, et ils dégustent des spécialités de pays. Et c'est comme ça que sont nés les bistrots. Hein. C'est des endroits très très populaires.
Et convivial, c'est ça, ça parle de la convivialité.
Oui, convivial, tout à fait. Et alors, les Auvergnats sont les premiers à clients des bistrots. À Paris, à l'époque, il y avait des grands cafés bourgeois. Et donc, pour les ouvriers, pour les gens du peuple, il n'y avait pas d'endroit, à part les assommoirs, mais ça, c'était autre chose. Hein, c'était terrible.
C'était quoi, les assommoirs ?
Les assommoirs, c'était des endroits où on buvait de l'alcool, on s'alcoolisait consciencieusement avec de l'absinthe qui, non seulement enivrait, mais provoquait des maladies terribles.
Et d'ailleurs, Émile Zola, on a fait un très beau roman, L'Assommoir.
Mmh. Est-ce qu'on sait, Pierre Boisard, quel a été le premier bistrot parisien ? Est-ce que les historiens ont trouvé ça, ou est-ce que ça s'est perdu dans le...
Non, malheureusement ça s'est perdu, mais enfin ouais. On peut chercher encore, hein. Peut-être que des archéologues pourraient le trouver.
Dans ce quartier de la Bastille.
Dans ce quartier de la Bastille, forcément dans ce quartier de la Bastille. Hein. Mais au départ c'était ce qu'on appelait les vins charbon. C'est-à-dire qu'on y trouvait du vin, on y trouvait du charbon, et on pouvait se faire livrer par le bougnat. Donc ce mot auvergnat, on suppose que ça vient du terme charbougnat. Pour dire qu'il y avait du charbon, charbougnat, ça vient devient bougnat. Voilà, c'est ça les premiers bistrots, le bougnat.
Le bougnat, ça désigne le lieu ou la personne ?
Les deux.
D'accord.
C'est devenu le nom du lieu. Et j'imagine que ces lieux, ces bougnats, qui ne s'appelaient pas encore bistrots, ils tranchaient avec... ce qu'il y avait par ailleurs à Paris, il y avait déjà des grandes brasseries, des grands cafés.
Alors il y avait des grandes brasseries et surtout des grands cafés qui étaient des cafés fréquentés par la bourgeoisie, qui étaient très très élégants. Et oui, ça tranchait effectivement parce que la clientèle n'était pas la même. C'était des gens du peuple, les ouvriers parisiens qui étaient plutôt pauvres. Et aussi quelque chose de très important, c'est que il y avait un logement, ils vivaient dans des taudis. Donc si vous voulez se retrouver loin du bruit de la marmaille, loin des récriminations des patrons et de l'atmosphère pesante de l'usine, eh bien, ils se retrouvaient entre copains dans des bistrots. C'était pas le grand luxe, mais en fait, ils pouvaient déjà s'humecter le gosier, ce qui n'est pas négligeable, et puis discuter entre eux.
Réservé aux hommes.
Réservé aux hommes, c'est-à-dire que pour les femmes, c'était mal vu d'aller au bistrot. C'était plutôt les prostituées qui s'y retrouvaient.
Les bougnats, ces premiers bistrots, vont commencer à s'installer aussi hors des quartiers auvergnats. Vous dites qu'ils ont commencé à Bastille, et notamment Passage Tiré. Ils vont se rapprocher des usines, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que la clientèle potentielle de ces bistrots, hein, qui vendent du vin pas cher, souvent d'ailleurs on rajoute un peu d'eau dans le vin.
Ils piquent un peu ?
Oui, de toute façon, ils piquent un peu. Ouais. Puis on trouve du fromage, de la charcuterie auvergnate. Ces bistrots vont être à proximité des usines pour capter cette clientèle lors de sa sortie de l'usine.
Donc ça, c'est le point de départ de l'histoire. Mais ce qui est fascinant, c'est que encore aujourd'hui, les Auvergnats sont majoritaires dans les bistrots parisiens ? C'est une réalité ou c'est un fantasme, ça ?
Non, ça n'est pas un fantasme. Alors, je pense qu'ils ont perdu quelques parts de marché, mais disons qu'entre les Auvergnats, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est la confiance. Ils se prêtent de l'argent. Et les plus gros fournisseurs des cafés-restaurants à Paris, le café, on peut faire de la publicité, Café Richard, Tafanel, entre autres.
Olivier Bertrand,
en troisième, tout à fait. Eh bien, ils sont auvergnats eux-mêmes. Et ils réservent, en fait, les places de bistrot à des auvergnats, parce qu'il y a une confiance entre auvergnats. C'est-à-dire qu'on se fait confiance. Et donc, on est sûr que on aide un auvergnat à s'établir dans un bistrot, c'est un bosseur, il a le sens de l'économie, son affaire va marcher.
C'est-à-dire que si on n'est pas du Sérail, si on n'est pas auvergnat, on ne peut pas ouvrir son petit bistrot.
Oh, je pense que si, mais il faut faire ses preuves dans un bistrot tenu par un auvergnat et être parrainé par un auvergnat.
Oui, donc on conserve cette idée de convivialité, de confiance de ces premiers auvergnats qui sont arrivés au 19e à Paris, finalement, c'est ça ?
C'est ça, oui. Oui, les auvergnats s'en sont sortis à Paris grâce à cette confiance, grâce à ces prêts. Comme ça, directement, sans papier.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La
curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ah, elle a l'air bien fraîche celle-là. On fait l'émission accoudée au zinc des bistrots parisiens avec notre invité Pierre Boisard, qui est sociologue et qui publie La vie de bistrot aux presses universitaires de France. Tiens, le zinc, il y en a encore dans les bistrots parisiens. Des vrais zincs.
Des, hein. Des vrais zincs, des zincs en zinc. Non, ouais. Il n'y en a pratiquement plus. Ouais. Peut-être un ou deux. Enfin, il...
et ça vient d'où d'ailleurs le zinc? C'était la, le matériau le plus simple à utiliser. C'était quoi? C'était
oui, puis c'était inoxydable. C'est, bon, on couvrait les toits à Paris avec du zinc. Ouais, donc c'était sûr, une matière première abondante, facile à travailler et qui s'entretenait facilement. Donc
on pouvait renverser son verre de vin
voilà,
ou de...
sans problème.
Sans
ouais.
problème.
Ouais, ouais.
Il y a toujours, je sais pas, le pilier de bar, l'étudiant, la vieille dame. Si on fait comme ça de la sociologie de bistrot.
Oui, c'est vrai à peu près partout, c'est des incontournables du bistrot, mais ça dépend des heures. Hein. Vous n'avez pas les mêmes personnages selon les heures. Mmh. Et donc, par exemple, les vieilles dames, vous allez les trouver très tôt le matin, parce qu'elles sont insomniaques, et puis elles s'ennuient, donc elles sont un peu tristes, elles vont se retrouver un peu de joie avec l'aide d'un blanc sec, par exemple, et puis regarder le spectacle du monde dans le bistrot. Puis vous avez des femmes... qui travaillent ou qui... parce qu'on peut venir travailler ou qui viennent rencontrer des copines aussi au bistrot, c'est plus marrant qu'à la maison en fait. Hein.
Vous parlez de blanc sec, Pierre Boisard, est-ce que chaque bistrot a ses boissons absolument incontournables, celles qui doivent absolument être à la carte?
Je ne pense pas, enfin il y a quelques...
Bon,
y a...
Oh bah le ballon de rouge,
Oui, le ballon de rouge, mais c'est pas un rouge particulier.
Ouais, ah oui.
Ça va être le Côte du Rhône.
Une boisson anisée aussi.
Oui, les boissons anisées.
Il faut bien en avoir, parce que sinon on va faire des déçus. Oui,
on en
sûr.
Vend de moins en moins, paraît-il. Ouais. Hein, ce que me disait Yves. Ah oui, oui, il en vend pratiquement 10 fois moins qu'il y a 20 ans.
Donc il y a des modes dans les boissons.
Il y a des
modes,
oui. Bon, il y a eu le spritz qui a été très à la mode ces derniers temps. Hein.
Que Thomas nous a fait découvrir, on doit tout dire.
Ils se tournent tous vers moi parce que je leur ai fait goûter un spritz particulièrement dégueulasse un jour.
Enfin, je pense qu'il était bon à l'origine, mais c'était le cocktail qui n'était pas très réussi.
Non, non, c'est tel que moi je l'avais préparé.
Oui, c'est ça, c'est
donc c'est devenu un running gag de la curiosité.
Bah, il était chaud,
ne me
ça,
demandez
problème.
Jamais un spritz. Est-ce que la révolution numérique a cassé l'ambiance des bistrots? C'est-à-dire, on a tous des téléphones portables, parfois des tablettes, et on est un peu scotché, et du coup, on est peut-être moins disponible.
Oui, malheureusement. Alors, moi, ce qui m'a bien plu quand je suis arrivé au Martignac, c'est que j'ai vu écrit au Blanc de Meudon, sur un miroir... Pas de Wi-Fi ici, parlez-vous.
C'est génial.
C'est génial, oui.
Ouais, c'est bien. Ouais.
Mais alors, quand même, on vibre aussi dans les bistrots et notamment, on partage des matchs de foot. C'est le haut lieu du match de foot collectif, mais pas sur le terrain, sur le zinc, au bistrot.
Oui, alors on refait le match au bistrot le lendemain et puis le soir même, pendant
télé,
la Coupe du Monde
ou un poste
les
radio,
grands matchs de Ligue 1, effectivement, il y a les télés. Et c'est vrai qu'on pensait que la télévision, au début de la télévision, ça allait ruiner les bistrots parce que les gens resteraient chez eux devant leur poste de télé. En fait, ils regardent la télé, enfin le foot, le rugby à la télé, mais ils vont le voir au bistrot parce que... Pour vibrer à un match, il faut être nombreux. En famille, bon, c'est pas pareil, quoi. Donc, on va retrouver des copains et on va crier, on va applaudir ses favoris, etc.
On va se défouler.
Parce qu'on est pour l'OM, l'autre est pour PSG. Et ça, bon. Voilà, mais il y a de l'ambiance, quoi. C'est-à-dire que le bistrot est nécessaire à l'ambiance. Alors, le match de foot se déroule à la fois sur un terrain de foot et à la fois dans les bistrots.
Pierre Boisard, c'est vrai qu'en Angleterre, près de la moitié des clubs de foot ont vu le jour dans des pubs?
Oui, et puis les premiers, même en France, hein, les premiers clubs français, le Red Star, c'est Jules Rimet dans un bistrot qui a eu l'idée, enfin, et qui en a discuté avec ses copains. Oh, et le bistrot, c'était fantastique, ça servait à la fois de vestiaire, de buvette, et puis on faisait les réunions du club, parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits pour se réunir, et c'était ouvert. Voilà, le bistrot, c'est un havre pour tous ceux qui sont un peu sans local, je dirais.
D'accord. Et alors, est-ce que les Costes, ces frères qui ont monté un empire de la restauration et de l'hôtellerie, d'ailleurs, aujourd'hui...
De resto plutôt très chic à Paris.
En France, oui, oui, il y a un hôtel qui porte leur nom. Est-ce que ce sont des Auvergnats?
Attention, là, vous avez pris un risque. Hein. Faites attention quand vous allez sortir du studio, parce que c'est
pas.
Un sujet de guerre de religion.
Oula.
Les Costes sont aveyronnais. Alors, pour certains, l'Aveyron, en tout cas le nord de l'Aveyron, c'est dans l'Auvergne, et pour d'autres, des puristes, non, l'Aveyron, ça n'est pas l'Auvergne. Alors moi, je ne tranche pas.
D'accord, la dernière fois que j'ai pris ce risque, c'est quand j'ai parlé du Mont-Saint-Michel, quoi. C'est à peu près la même chose entre les Normands et les Bretons. Okay. Votre livre, c'est La Vie de Bistrot, et c'est publié aux éditions Presse Universitaire de France. C'est la fin de cette première curiosité du week-end. On se retrouve demain, de 14 à 15 heures, avec au programme Sidonie.
L'origine des dictons météo et les coups de foudre des couples célèbres.
Allez, dans un instant, vous retrouvez le grand studio humour Laurent Boyer, qui reçoit entre autres Arnaud Ducret.
Les enfants, je vais faire de vous des machines de guerre, d'accord ? Parce que je suis spécialisé dans le street fight, le full fight, le free fight. Et là, je suis en train de spécialiser dans le high body watch and fight.
Faites jamais ça, Thomas. Hein.
Il est très drôle, Arnaud Ducret.
Bon après-midi à vous, à demain.